La prochaine conférence, et ça sera la dernière de la matinée, va être présentée par Mathieu Rondeau, de l'Université de Laval. Mathieu, je te laisse te présenter plus en détail.
Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Moi, je vais tenter de vous présenter une vision québécoise d'introduction de la géomatique au sein de l'enseignement secondaire, qui est l'équivalent du collège-lycée au Québec. L'ironie du sort, c'est que je suis français, que 4/5 des professeurs qui travaillent sur le projet sont aussi français. Donc, on va quand même vous présenter une vision québécoise avec l'approche que j'ai découverte là-bas. Donc, notre projet s'intitule le projet géomatique TIC pour technologie de l'information et de la communication. Il se déroulera en deux parties. Donc une première partie que j'ai essayé de creuser un peu à la demande des organisateurs, qui tend en fait à essayer de mettre en évidence les différences qui peuvent exister entre l'enseignement de la géomatique au Québec par rapport à la France. Et une deuxième partie plus appliquée, où je vais dérouler le scénario d'une activité pédagogique qu'on a développée, de manière à vous montrer un petit peu l'ampleur des travaux qui sont réalisés. Alors, le panorama de la géomatique au Québec. Alors, ce qui est dit ici, c'est pas issu d'une étude sérieuse ou quoi, c'est vraiment issu de mon expérience personnelle. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma formation en géomatique en France, à l'ESGT, et ensuite de poursuivre à l'Université Laval pour une maîtrise en sciences géomatiques au sein du département des sciences géomatiques de l'université. Et puis ça me donne une vision, une double vision finalement. Alors les trois principales différences, c'est que je pense qu'on est formé plutôt à la géomatique au Québec, que l'enseignement est plus centralisé, et que le terme géomatique est plus rassembleur aussi au Québec. Bon, très simplement, le secondaire se terminant une année plus tôt au Québec, évidemment on est formé une année plus tôt là-bas qu'ici. Une chose importante à voir, dans les deux pays, on a une possibilité de se former de manière spécialisante. Donc ça c'est les cheminements en vert, ou plus général, pour ensuite converger à l'université vers une formation en géomatique. Et la différence majeure, c'est que en France, on va se former à des disciplines déjà définies, très spécialisées, la topographie, la photogrammétrie, alors que dès la sortie de l'équivalent terminal au Québec, on a une formation qui s'intitule le cégep en géomatique, où on va avoir la chance de découvrir l'ensemble des disciplines qui composent ce domaine. Bon, alors plus centralisé. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant à l'Université Laval, c'est qu'au sein du département des sciences géomatiques, on a la possibilité d'interagir avec des experts dans chacune des disciplines qui composent le domaine. Nous, on considère la géomatique comme un domaine à part entière, une discipline propre, avec ses propres concepts, outils et méthodes. En France, j'ai l'impression que si on veut parler de télédétection, on aura une expertise à Toulouse. Pour la photogrammétrie, on va aller à Strasbourg. Pour le foncier, on va aller au Mans. Bon, ça, c'est juste une différence de point de vue. Puis c'est ça, la diapo la plus importante pour moi, c'est que, comme je vous l'ai dit, la géomatique au Québec, c'est un domaine à part entière. Alors qu'en France, c'est un ensemble de disciplines éclatées. Et ça change tout, ça change vraiment notre approche, ça fait toute la différence sur ce qui va suivre. Bon, malheureusement, au secondaire, j'ai pas noté de différence majeure dans l'utilisation qui est faite de la géomatique par les professeurs. C'est toujours une utilisation des outils et des méthodes, simplement. Il n'y a pas encore de formation en tant que telle au niveau secondaire dans le domaine spécifique de la géomatique au Québec. Et pour mettre en avant l'originalité, si je peux m'exprimer ainsi, de l'approche du projet par rapport aux approches françaises, je reprends une question que Thierry Joliveau a posée ici en 2006, où il se demandait si la géomatique était un objet ou un outil d'apprentissage. Il avait distingué trois situations. La première, on évolue dans un domaine spécifique, les SVT, l'histoire géo, et on a recours occasionnellement à des outils géomatiques, dans le cadre de notre enseignement par exemple. La deuxième situation, on évolue à l'intersection de la sphère qui compose le domaine géomatique et de la sphère d'un domaine spécifique, où là on a seulement recours aux outils et méthodes de la géomatique qui sont d'intérêt pour répondre au domaine spécifique en question. Enfin, la dernière situation dans laquelle je m'inscris, et dans laquelle tous les géomaticiens s'inscrivent, où là la géomatique est typiquement considérée comme un objet d'apprentissage, où on évolue dans la sphère du domaine et on applique régulièrement nos outils et nos méthodes, on les concrétise dans le cadre d'un domaine spécifique. Si je peux me permettre, je pense qu'en France, les différentes les expérimentations d'introduction de la géomatique se situent dans le cadre de la situation 3. Donc c'est des professeurs de SVT et d'histoire-géographie qui utilisent des outils géomatiques comme des globes virtuels pour agrémenter un petit peu leur cours. Et nous, on essaye, dans le cadre du projet, de se positionner entre les situations 2 et 1. Donc on donne une importance plus grande à la géomatique. Et ça, c'est possible parce qu'on considère la géomatique comme un domaine à part entière. Donc on extrait des concepts propres à ce domaine-là. Et les activités qu'on propose, eh bien, elles se situent à l'intersection des concepts de notre domaine et de la sphère des concepts qui sont prescrits par le programme d'enseignement au secondaire. Alors un exemple, le prof de maths, pour concrétiser un peu l'apprentissage de la trigo, peut essayer d'expliquer à ses élèves comment fonctionne un théodolite, par exemple. La trigo, c'est un concept qui est prescrit par le programme, et le théodolite, c'est un outil géomatique. Donc on se situe là encore à l'intersection. Une autre originalité de notre approche, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Donc on a réuni une expertise en géomatique, donc par l'entremise du département des sciences géomatiques de l'Université Laval, ainsi que le cégep de Limoilou. On s'est adjoint une expertise en sciences de l'éducation de l'Université Laval, donc qui eux vont traiter le volet pédagogique de nos activités. Et on valide avec des professeurs du secondaire qui sont aussi des conseillers pédagogiques en sciences techno, en maths et en histoire-géographie, régulièrement pour voir si les activités qu'on propose sont réalistes, utilisables et pertinentes. Un autre point, c'est la modularité des activités. Vous allez voir, l'activité que je vais présenter est de grande envergure. Elle peut s'étaler sur facilement 4 mois. Donc, on l'a découpé en modules qui sont tous utilisables dans le temps d'un cours. Bon, au Québec, un cours, c'est 75 minutes. Donc chacun des modules qui sont présentés donc sont disponibles pour une équipe d'enseignants qui peuvent aller chercher individuellement, par exemple le prof de sciences physiques, les modules qui l'intéressent, ou alors le prof de maths, un module différent, etc. Par contre, dans le cas d'un projet donc pour favoriser la pédagogie de projet et l'interdisciplinarité, ces mêmes profs peuvent travailler ensemble, aller chercher les modules qui sont d'intérêt pour eux, et la suite formée par la juxtaposition des modules forme un tout cohérent et permet donc de réaliser l'ensemble de l'activité. Alors, la deuxième partie, donc de manière concrète, je vais dérouler le scénario d'une activité qu'on a développée qui s'appelle le cartographe amateur. Alors l'activité va être disponible sur notre site web d'ici peu. L'objectif qui est proposé aux élèves, c'est la réalisation d'une carte à l'échelle 1:5000 de leur cours d'école et de ses environs dans le cadre d'un projet d'aménagement, implantation d'un terrain de basketball ou d'un jardin communautaire, comme vous voulez. Comme je vous l'ai expliqué, l'activité est divisée en différents modules. On a même, à plus haut niveau, divisé l'activité en 5 phases. Donc on commence par la première, qui est l'étude du problème. On va proposer aux profs d'histoire géo, en fonction du temps dont ils disposent, de faire construire à ses élèves, ou bien de leur donner seulement l'analyser, une ligne du temps qui répertorie les principaux jalons qui ont marqué l'histoire de la cartographie et de la géomatique. Ensuite, chacun des jalons peut faire l'objet d'un module à part entière dans le cadre d'autres disciplines. Par exemple, le premier jalon, ça va être, dans le cadre du cours de mathématiques, le calcul du périmètre terrestre, qui a été résolu par Ératosthène en 250 avant Jésus-Christ. Bon, chacun des jalons est aussi introduit à l'aide d'un média spécifique, ça peut être de la vidéo, de la bande dessinée, et de manière à favoriser l'utilisation des TIC, et aussi à générer un intérêt de la part des élèves. Donc, par exemple, dans le cadre du premier module, on a recours à une vidéo qui est extraite des découvreurs. Mais ça, c'est une vidéo qu'on n'aura pas le droit d'utiliser. Donc on va la refaire nous-mêmes. Du moins, on va la générer sous forme d'animation à l'aide d'un graphiste qui travaille avec nous sur le projet. Donc qui introduit la problématique du calcul du périmètre terrestre de manière un petit peu à motiver les étudiants par rapport à cette problématique-là. Un deuxième jalon, introduit sous la forme d'une bande dessinée, la résolution du problème de la longitude par Harrison, qui permet aux navigateurs donc, de traverser les océans de manière sécuritaire. Un troisième jalon que l'on utilise dans le cadre du cours de mathématiques, où j'en ai parlé précédemment, c'est la concrétisation des méthodes de topographie à l'aide de la compréhension du fonctionnement d'un théodolite ou d'un niveau d'arpentage. Bon, le dernier, l'introduction au globe virtuel dans le cadre du cours de géographie, par exemple. L'objectif de ce module, c'est de donner un panorama le plus complet possible des différents outils et méthodes qui sont offerts par le domaine de la géomatique pour pouvoir réaliser une carte. Et ça nous introduit le second, où l'on pose la question aux élèves de savoir, parmi ces outils, lequel allons-nous ou lesquels allons-nous utiliser pour réaliser notre carte. Alors la première réponse, c'est le recours à la topographie classique. Donc, étant donné les budgets et la complexité de la manipulation de ces appareils, c'est une méthode qui ne sera pas retenue. Une autre qui est suggérée, ou qui sera suggérée par les étudiants, c'est le recours à l'imagerie aérienne et satellitale, de manière à digitaliser sur l'image la carte qui est demandée. Et c'est cette méthode-là que l'on va retenir. Maintenant, suite à la présentation des globes virtuels, les élèves vont sûrement suggérer l'utilisation des images satellites qui sont mises en ligne sur Google Maps ou Google Earth pour appuyer la digitalisation de leur carte. Mais là, on attire leur attention sur le problème de la résolution, de la qualité des données, de la mise à jour des données. Sur Google Maps, c'est des données qui sont anciennes et dont la résolution est trop faible pour atteindre la réalisation d'un plan en 5000. Donc, on va les faire réfléchir sur la nécessité d'acquérir des images à haute résolution, notamment d'avoir le recours à des drones pour voler plus bas, finalement. Et là, on leur demande de réfléchir sur la plateforme d'acquisition qu'ils vont devoir construire pour pouvoir faire l'acquisition de leur propre jeu de données. On leur suggère de choisir le ballon solaire. Donc la plateforme d'acquisition qu'on va faire construire aux élèves se compose d'un ballon solaire et d'une nacelle dotée d'un déclencheur électromécanique qui accueillera un appareil photographique numérique. Là, on passe à la phase numéro 2 qui s'adresse plus aux profs de sciences physiques et qui tend à modéliser et réaliser une plateforme d'acquisition. Donc notre plateforme, elle est constituée d'une enveloppe, d'une nacelle et d'un appareil photo. On fait rapidement l'étude du système en identifiant les forces en présence, donc la poussée d'Archimède, bon, qui est un concept qui est au programme hein, des cours de sciences physiques, et le poids. L'objectif, c'est que la poussée d'Archimède soit supérieure au poids, de manière à générer une force ascensionnelle positive, pour faciliter l'ascension du ballon. A l'inverse, si le poids est supérieur à la poussée d'Archimède, le ballon ne décollera pas. Comment s'assurer d'avoir une force ascensionnelle positive ? Bon, il suffit de mettre rapidement en équation le système pour dégager les paramètres qui influencent ce système. Donc on en a 5, le volume du ballon, les masses volumiques de l'air intérieur et extérieur, la masse de l'enveloppe elle-même, et la masse de la charge levée, c'est-à-dire la nacelle, l'appareil photo et tous les cordages. Donc, dans le cadre du module analyse qualitative, et pour favoriser l'utilisation des TIC, on développe une animation qui permet aux étudiants de jouer à l'aide de curseurs, finalement, sur la valeur des paramètres, et de voir en temps réel, finalement, l'influence de chacun sur le système. Donc, typiquement, si on augmente le volume, on génère une force ascensionnelle positive parce qu'on maximise, on augmente la poussée d'Archimède, elle devient supérieure au poids. Donc le ballon va avoir tendance à monter dans ce cas-là. Mais par le même temps, en augmentant le volume du ballon, on augmente la surface de l'enveloppe, on augmente donc le poids de celle-ci. Donc le curseur masse-enveloppe s'est déplacé vers la droite, ce qui se traduit par une augmentation du poids et qui tend à faire redescendre le ballon. Donc là, on voit déjà qu'on met en évidence un compromis qu'il va falloir faire. Une autre simulation, c'est sous l'influence du soleil, la température à l'intérieur de l'enveloppe va augmenter, ce qui va avoir pour incidence de faire diminuer la masse volumique de l'air intérieur, et ce qui va encore une fois générer une ascension du ballon. Donc comme ça, de manière très rapide, ils vont pouvoir savoir dans quel sens ils vont devoir faire varier chacun des paramètres pour pouvoir favoriser l'ascension de leur ballon. Maintenant, de manière plus quantitative, on va chercher à leur faire mettre des chiffres sur chacun des paramètres. Donc, je vais illustrer rapidement le cas du volume. Dans le cas du cours de mathématiques, par exemple, on va décomposer notre ballon en deux volumes de base, un tronc de cône et une demi-sphère, les volumes qu'on est capable de calculer facilement. Et la somme des deux nous donne une fonction qui dépend d'un seul paramètre, puisqu'on a contraint le système de manière à le simplifier, qui est le diamètre de la demi-sphère, et on exprime comme ça facilement le volume du ballon. Dans le cadre du cours de sciences physiques, la masse volumique de l'air intérieur donc est régie par la formule la formule suivante. Il nous faut évaluer les termes T et P. Pour évaluer le terme T, on propose une expérimentation qui consiste à suggérer aux élèves de tester différents matériaux candidats pour la réalisation de l'enveloppe. Donc on a un aluminium peint, un plastique noir, un plastique transparent, un papier de soie. On mesure sur le temps d'une heure régulièrement l'évolution de la température à l'intérieur de chacune des cages, et on obtient un graphique suivant qui nous montre déjà, premièrement, que le matériau candidat qui va être favorable est le plastique noir, parce que c'est lui qui permet d'atteindre une température maximale dans le ballon. La valeur qui est trouvée ici va pouvoir être injecté dans l'équation pour avoir une approximation de T. Pour ce qui est de la pression, comme le ballon est ouvert, on considère que la pression intérieure et extérieure changera peu, étant donné que le ballon ne va pas être lancé trop haut. Et donc, il suffit d'aller sur un site météo pour avoir une idée de la pression le jour même, dans le jour de l'expérimentation, finalement. Ainsi de suite. Une fois que chacun des paramètres a été évalué, on injecte le tout dans une feuille Excel qui peut être construite ou donnée aux étudiants suivant le temps dont on dispose. Et en sortie, on obtient automatiquement le tracé du demi-fuseau du ballon. Parce que notre ballon est constitué de demi-fuseaux qui sont dépliés, qui juxtaposés donnent une représentation plane du volume. Donc il suffit de refermer le tout pour constituer le ballon. Bon, plus concrètement, bon, vous avez vu ici. On suggère de diviser le ballon en 6 fuseaux. Donc on va étaler 6 feuilles de matériaux candidats. Donc en l'occurrence ici c'est le plastique noir qu'on va superposer. Sur la feuille supérieure, on trace le profil du demi-fuseau qu'on a obtenu en sortie du chiffrier Excel. On découpe l'ensemble et on le déplie. Et après il nous reste à assembler chacun des fuseaux pour constituer le volume. Donc ça c'est moi qui l'ai réalisé, ça fonctionne. Bon, pour ce qui est de la construction du déclencheur, je m'y attarde pas plus longtemps. Ça, c'est dans l'objet du cours de technologie. En gros, on récupère une minuterie de cuisine. Au lieu de faire sortir le signal vers le beeper, on le renvoie sur un circuit électronique qui tend à le filtrer et l'amplifier. On envoie le tout dans un solénoïde. Et mécaniquement, on enclenche finalement un bras qui vient appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo. Bon, maintenant, on dispose finalement d'une plateforme d'acquisition qui nous permet de réaliser de l'imagerie aérienne. à basse altitude. Donc on va aller l'essayer sur le terrain. Alors on lance pas les jeunes comme ça sans consigne dans la nature. Donc il y a un module qui consiste en la préparation de la sortie terrain. Donc c'est un service web qu'on met en ligne sur notre site. Donc là on maximise encore l'utilisation des TIC. Alors la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a ici intégré au site Yahoo Maps, qui nous permet d'aller visualiser la zone d'étude, de nous positionner. Donc ici c'est le campus de l'Université Laval. Une fois que notre zone d'étude donc, est visible dans la fenêtre ici, on ajoute ce qu'on appelle des emprises. Donc une emprise, c'est un rectangle comme ça qui correspond au champ de vue de l'appareil photo lorsque celui-ci est réglé pour une focale F, ce qui est situé à une hauteur H et que la taille de son capteur est T. Encore une fois, ici, on peut jouer avec les différents curseurs pour voir l'influence de chacun des paramètres sur la taille de l'emprise au sol. Donc là, j'augmente F, donc je réalise un zoom, je diminue la taille de l'emprise au sol. À l'inverse, là, si j'augmente la hauteur des vols, je prends du recul par rapport à la scène, et donc l'emprise au sol augmente, etc. Donc une fois que l'emprise au sol, que sa taille est bien réglée, on la reproduit autant de fois que nécessaire pour couvrir la zone. Dans l'exemple ici, on a besoin de 3 images. Et ce qui est intéressant, c'est que le centre de chaque image, le nadir finalement, de chaque cliché, il est possible d'obtenir sa coordonnée géographique sous format texte, et même de l'exporter vers un GPS. Ensuite, on sort sur le terrain. Donc l'intérêt d'avoir exporté les coordonnées des nadirs dans un GPS, c'est que ça nous permet de nous déplacer rapidement jusqu'à l'endroit prévu et de procéder au déploiement du ballon. Donc en gros, comment ça fonctionne? Donc on déplie l'enveloppe et on va pousser à l'intérieur à l'aide d'un ventilateur de l'air, ce qui va nous, de l'air de température ambiante extérieure. Donc là, à l'époque, c'était moins 15 degrés. Ce qui nous permet, c'est très bon d'ailleurs, parce que ça nous permet de gonfler l'enveloppe. Le soleil frappant rapidement sur celle-ci, le différentiel de température entre l'air extérieur et l'air intérieur est maximisé. Et on va générer une ascension du ballon. Ensuite, il nous suffit de suspendre la nacelle d'acquisition, de régler le minuteur de cuisine pour déclencher l'acquisition de l'image 5 minutes par exemple, ce qui nous permet de le stabiliser en l'air au-dessus du point qu'on avait précalculé. Deuxième service web pour introduire la phase 4, traitement des images, parce que les images qui ont été acquises vont devoir être traitées pour corriger les effets de perspective et l'obliquité des prises de vue. Donc on va procéder à leur redressement. Donc ça, c'est possible aussi via un service web. Donc là, je vous montre seulement la maquette du service. Donc en gros, les étudiants ont à choisir sur leur poste individuel les images qu'ils souhaitent traiter et ils les importent sur le serveur. Ensuite, les images à traiter apparaissent ici. Ils les sélectionnent. Bon, là, pour là c'est une image qui est déjà orthorectifiée là, pour l'exemple. Mais ça va vous montrer quand même un petit peu le fonctionnement. Et pour procéder au redressement de l'image, on va identifier dans celle-ci des lignes de fuite horizontales et verticales, ainsi que 2 contraintes. Donc je passe sur les détails techniques. En gros, en sortie, on récupère une image redressée que l'on est capable de récupérer de la même manière du serveur sur le poste de travail. Donc ça nous permet d'entamer la phase numéro 5, la réalisation du plan. Donc on récupère une image de ce genre. Donc là, c'est un extrait Google Maps pour l'exemple, sur lequel on va pouvoir rapidement venir digitaliser les contours des objets d'intérêt et réaliser notre plan. Donc ça, c'est fait avec SketchUp. Ça peut être fait avec un CAD gratuit et ensuite exporté dans SketchUp, format DXF, pour pouvoir après extruder les bâtiments et générer un modèle en 3D de la zone, ce qui nous donne une perspective, un point de vue intéressant peut-être pour enrichir la discussion au sujet de l'aménagement qui va être proposé. La dernière phase, c'est la mise en ligne des documents cartographiques sur Google Earth. Nous, c'est ça qu'on propose. Et ce, pour pouvoir générer une discussion participative sur le projet d'aménagement. Chacun des élèves va pouvoir venir apposer des pastilles avec des bulles de commentaires. Il va pouvoir commenter les commentaires de ses collègues, etc. Et ainsi, on va pouvoir générer de manière collaborative un plan d'aménagement, des propositions d'aménagement. Donc ça fait le tour de la première activité, cartographe amateur, où on parcourt finalement, vous l'avez vu, le cycle de vie complet de réalisation d'une carte, donc de l'étude du problème, passant par l'acquisition des données jusqu'à leur exploitation. Alors pour conclure, on a une deuxième activité qui est travaillée aussi, ça s'appelle Attention Tsunami, ça s'adresse plus aux professeurs de SVT et d'Histoire Géo, alors que l'activité précédente s'adresse plus aux professeurs de physique, technologie et maths. Ici, le scénario, c'est que San Francisco est menacé par un tsunami dû à une éruption volcanique sous-marine, et on demande aux élèves donc, de proposer, en fin de projet, un plan d'évacuation très rapidement de la ville, donc pour pouvoir sauver le plus de personnes possible. Deuxième point de la conclusion, c'est l'accueil des professeurs du secondaire. Donc, je vous ai dit, on travaille collaborativement avec des conseillers pédagogiques, donc en physique, maths et histoire. Donc l'accueil est très positif et ils sont même intéressés de tester l'activité cartographe amateur dès la rentrée prochaine. Donc on va pouvoir voir concrètement comment est-ce que ça se passe en classe. Donc ça fait le tour de ma présentation, si vous avez des questions.
Oui, alors on tourne juste une ou deux questions. Merci Mathieu, c'était... Il n'y aura pas d'atelier à ce moment-là, ça fait bien beau. Mais n'empêche qu'ils assument l'instrumentation jusqu'à la construction des instruments servant à l'observation. Alors des questions, il faudrait passer le micro.
Merci.
Merci. Je voudrais savoir combien d'élèves sont touchés par cette activité et sur combien de temps, s'il vous plaît. Merci.
Alors, le projet tel que je vous le présente, il est en train d'être relu par les collègues de sciences de l'éducation qui vont apporter tout le volet pédagogique pour faciliter l'introduction en classe. Alors, sur combien de temps? C'est une session, 4 mois. Combien d'élèves Je comprends la question, c'est une classe d'élèves en fait. Donc, par exemple, pour la construction du ballon, on s'imagine que chaque élève ne va pas construire son ballon, donc là, il va falloir les mettre en groupe. Donc, pour ce qui est de la répartition des effectifs sur chaque tâche, ce n'est pas mon travail, c'est donc les collègues de pédagogie qui vont répondre à ces questions-là.
Merci.
Moi, c'est encore plus simple, c'est quel âge ont ces élèves ?
J'ai oublié de le dire, mais ça s'adresse à des élèves de secondaire 4-5. Alors l'équivalent ici, c'est seconde première.
Les gens sont perplexes, hein, On imagine ce genre de travail en France.
Moi, ce que j'ai pas très bien vu en termes de géomatique, c'est l'analyse spatiale. Où est-elle ?
Ben pour moi, la géomatique, c'est pas seulement l'analyse spatiale, c'est aussi la production de documents cartographiques et le choix de méthodes pour produire ces données-là qui soient adaptées au contexte et aux clients visés. Donc là, il me semble qu'on parcourt l'ensemble du cycle de vie de réalisation d'une carte pour ce qui est de l'analyse spatiale. Ça se fera une fois que le document cartographique sera produit. Donc ici, c'est encore embryonnaire, effectivement, mais ça tient plus dans les modules qui terminent l'activité où l'on essaye de stimuler une discussion participative concernant l'aménagement. C'est sûr qu'il n'y a pas d'analyse encore en termes de mesures, de requêtes spatiales, etc. Ça pourrait être des modules qui pourraient être ajoutés à l'activité.
Oui, en gros, la question, c'est est-ce qu'on est plus près des sciences expérimentales dans l'acquisition, les calculs, l'observation, ou est-ce qu'aussi vous intégrez les sciences sociales ? Parce que nous, par exemple, ce genre de choses en géographie, la géographie en France est ancrée dans les sciences sociales, de fait, on ne peut pas le faire. Donc ça relègue la géomatique du côté des sciences expérimentales, ce qui est très intéressant hein, pour les sciences physiques, les SVT, etc. Mais en France, ça ne serait pas possible de faire ça dans le cadre d'un cours de géographie. Donc la question, oui. Est-ce que vous intégrez aussi toutes les disciplines ? Mais voilà.
Oui, c'est ça, on l'intègre dans le scénario donc, qui sous-tend l'activité, donc l'aménagement d'une zone. C'est sûr qu'il y a un biais, c'est le scénario qui est présenté ici, il a été pensé par en partie par moi-même, qui est plus qui est plus intéressé par l'aspect technologique de la géomatique plus que l'aspect sciences humaines, sciences sociales. Donc c'est sûr que ça se traduit dans le scénario. Maintenant, je l'ai dit aussi en début, ça s'adresse effectivement aux profs de physique, maths et techno avant tout. Pour l'aspect sciences sociales, on a une activité donc, qui est l'attention tsunami, là, qui met plus en avant ces aspects-là.
Oui, moi j'ai une question, donc c'est intéressant, mais est-ce que, parce que dans la présentation que vous faites de la géomatique au Québec, en effet, on est très côté sciences topographiques,
ouais,
qui est liée en effet à la manière dont la géomatique est construite à l'Université Laval. Et si j'ai bien compris, c'est votre parcours aussi, puisque les quatre points que vous mettez, c'est les quatre écoles, c'est les écoles de topographes géomètres et des écoles d'ingénieurs.
Oui.
Que vous mettez sur la carte française.
Il y en a trois, donc j'ai mis Le Mans, Paris et Strasbourg.
Oui, c'est...
Pour ce qui est du point sur Toulouse, c'était pour souligner la télédétection.
J'ai compris. Non, parce que là, on est dans un positionnement très lavalien de la géomatique, c'est-à-dire tourné en fait sur ce que j'appelle la géomatique topographique, c'est-à-dire la géomatique pour rendre de manière très précise l'occupation du sol, les objets qui sont sur la surface terrestre, dans lesquels c'est une discipline d'ingénieur, pour lesquels il faut avoir un bon niveau en maths pour être recruté, exactement comme c'est la même chose à Laval que dans les écoles d'ingénieurs françaises. Tandis qu'il y a un positionnement de la géomatique plus tourné vers de l'interprétation, de l'analyse en aval du production de la donnée, et qui est. C'est souvent comme ça que la géomatique était utilisée dans les classes de géographie. Mais je voulais simplement, pour continuer là-dessus, il y a eu ce débat, on avait par exemple avec, comment il s'appelait, Sébastien Catala, où Sébastien Catala à Montpellier était lui aussi, puisqu'on avait commencé les expérimentations dans les classes il y a 5-6 ans maintenant, il y a plus que ça, lui était parti sur à emmener les élèves sur le terrain avec des GPS, leur faire saisir les données. Il a une application sur la localisation des poubelles de recyclage dans un lycée en utilisant l'analyse spatiale pour savoir où les placer. Et nous, quand on avait travaillé sur ce qui a donné après GeoWeb Explorer, on était plutôt vraiment sur le versant aval. C'est-à-dire, une fois que les données sont constituées, comment les interpréter, les analyser. La question que je me pose, c'est est-ce que l'élève, il voit à travers toutes ces activités quelque chose qui est cohérent, ou est-ce qu'il fait de la trigo, il apprend de l'histoire de l'astronomie, il construit un ballon, et puis qu'il a du mal à saisir l'ensemble. C'est ma question, c'est est-ce qu'il voit vraiment la géomatique ? C'est-à-dire, est-ce que la géomatique, elle est encore présente ? Sachant qu'en fait, il fait sur une grande période différentes activités qui ont leur propre cohérence interne et qui n'ont pas forcément besoin de cette justification générale.
Ça dépend de la manière dont on va présenter l'activité aux élèves. Si on leur montre, on pense réaliser par exemple une vidéo d'une dizaine de minutes qui présente l'ensemble de l'activité, un petit peu sous la forme du PowerPoint qui est ici. Si on présente dans le cadre d'introduction à l'activité cette vidéo aux élèves, il va comprendre que chacune des phases par lesquelles il va passer, si on les met bout à bout, forme un tout cohérent qui permet d'aboutir à la réalisation d'un projet qui est résolument géomatique, puisque, comme je le dis, on parcourt le cycle de vie complet de la réalisation d'un document cartographique. C'est très important. Pour moi, la géomatique, ça ne se résume pas à l'analyse du document, mais c'est aussi la production du document.
Oui, mais je comprends. Et moi, en tant qu'enseignant ayant des élèves un peu plus vieux que ça, je me suis rendu compte depuis très longtemps que c'est pas parce que je leur explique, même au début de l'heure, l'objectif général de ce qu'on va faire, qu'ils savent 20 minutes après à quel endroit ils sont de ce qu'on fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà. Donc je me demandais s'il y avait une capacité, peut-être qu'au Québec, oui, il y a une capacité supérieure à intégrer des finalités longues, mais moi j'ai du mal avec les étudiants qu'on a. Et puis à la limite, c'est peut-être plus simple quand on est prof, parce qu'on sait la rationalité de ce qu'on fait, la finalité, mais si on se mettait à la place des élèves, peut-être que en fait c'est pas aussi facile à saisir, quoi. Donc est-ce que vous avez envisagé dans votre projet la vérification de cette cohérence complète
Oui, donc comme je le dis, l'activité devrait être testée en septembre prochain par des professeurs. Une chose que je voudrais rajouter, c'est que un professeur ou une classe n'est pas obligé de réaliser l'activité au complet. On peut la dispatcher entre plusieurs professeurs et plusieurs classes. Par exemple, il y a des spécialités plus technologiques qui existe, qui, cette classe-là va pouvoir s'occuper de la réalisation du ballon, versus une spécialité plus scientifique qui, elle, va peut-être s'intéresser au traitement des images qui vont être acquises. Donc on favorise aussi le travail interclasse et interprofesseur. C'est important de comprendre que l'activité est complètement modulaire. On n'est pas obligé de traiter l'activité au complet. On peut juste aller à la demande chercher des modules d'intérêt pour sa discipline propre. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut avec ça. Maintenant, si on veut prendre tous les modules et les mettre les uns à la suite des autres, ben on va réaliser un projet d'envergure qui, je pense, va laisser une marque intéressante donc dans la tête des élèves. Personnellement, on m'aurait proposé de réaliser un tel projet quand j'étais au lycée. Je m'en souviendrai encore. Et je pense que c'est comme ça qu'on va intéresser les élèves à l'utilité et l'importance de la géomatique et qu'on va leur donner le goût de s'y former, parce que c'est aussi l'objectif là, du projet. C'est de donner le goût aux élèves très tôt de se former au domaine pour ensuite venir étudier ce domaine-là à l'université pour combler les postes qui sont vacants, parce qu'il y a une pénurie de l'emploi réel au Québec comme en France, donc dans le domaine de la géomatique. Donc ça, c'est l'objectif à long terme du projet.
Moi, je trouve que les remarques de Thierry sont, enfin, me parlent en tant qu'enseignante, elles me parlent vraiment beaucoup. Et du côté praticien, si vous voulez, quand vous avez présenté votre projet, je trouvais que l'accroche était bonne. Vous avez dit, par exemple, dans le cadre, donc construire une carte, dans le cadre d'un projet d'aménagement autour de l'école. Et du coup, à mon sens, là, il manque quelque chose, il manque une étape d'interprétation des données qu'on a prélevées, et notamment, par exemple, interprétation des bâtiments qu'on peut voir, leur usage, leur fonction, les flux, pour pouvoir ensuite travailler sur un projet. Et là, du coup, on fait de la géographie, et la géomatique, les problématiques de géomatique vous parliez d'intersection tout à l'heure, là, on trouve une intersection, si vous voulez, avec la géographie. Enfin, à mon sens, voilà, il faudrait rajouter une étape d'interprétation des données. Mais il me semblait que vous aviez dit ça au départ, c'est vrai, mais ça n'apparaissait plus.
Oui, enfin, moi, j'ai bien compris que vous avez montré, en fait, la première phase d'un projet qui est plus vaste, et que la partie, disons, sciences sociales, elle vient après. Donc, dans ce sens-là, je trouve ça assez cohérent. Pour moi, ce qui me frappe, ça me rappelle quelques jours que j'ai passé dans un lycée américain où il y a cette approche... anglo-saxonne ou nord-américaine, je ne sais pas, mais où on part d'un objet et puis on fait une expérience avec les élèves et puis ça dure. Alors que nous, on est sans arrêt obsédé par finir le programme, transmettre les connaissances, etc. Alors j'ai très conscience des limites du système français, donc je suis intéressé, ça m'attire. Mais en même temps, je m'interroge quand même sur ce que les élèves peuvent en retirer au final, quoi. Est-ce que ça permet la construction d'un savoir, quoi, un petit peu opérationnel, qu'on puisse transposer ailleurs, parce que bon, ils auront, je pense aux expérimentations de TPE qu'on a en France, c'est un petit peu ça, enfin disons, c'est le modèle un peu idéal, quoi. J'aimerais bien que mes élèves aillent jusque là, mais bon, mais c'est pas toujours disons, extrêmement utile pour leur formation. Puis il y a l'autre aspect, vous dites, bon, et je crois que c'est ça aussi qui nous sépare, vous avez un impératif, disons, de recrutement. Enfin, disons, vous avez une préoccupation d'inciter des élèves à s'engager dans la voie universitaire de la géomatique, etc. Or, nous, on nous dit, vous n'êtes pas là pour former des géographes, vous n'êtes pas là pour former des historiens. Bon, voilà, je crois qu'il y a... Mais c'est intéressant de confronter les deux systèmes.
Alors, on aurait pu vous inviter à l'INRP à un double titre, c'est qu'il y a ici un dispositif qui s'appelle la main et la patte, alors plutôt pour le premier degré, mais on est exactement sur le titre de démarche expérimentale. C'est un parti pris pédagogique de dire on va vers la pédagogie de projet, toutes les disciplines s'agrègent à partir d'un projet qui, lui, est transversal. Et donc là, il y a quelque chose de très fort, hein, et très légitime. Simplement, il se trouve que le contexte de l'enseignement au secondaire en France fait qu'on n'est pas là-dedans. Par contre, il y a quand même une réflexion sur l'instrumentation. Jusqu'où va l'instrumentation? Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans, finalement, votre présentation, c'est que les TIS ne sont qu'une partie de l'instrumentation. Or, nous, quand on travaille sur les TIS, souvent, c'est pas une fin en soi, mais on délimite l'instrumentation uniquement sur l'usage de l'informatique. Et vous l'élargissez, la minuterie de cuisine, le ballon à construire. Donc pour vous, ça va beaucoup plus loin, y compris dans l'acquisition. Alors je vous rappelle quand même, c'est quand même les Québécois, c'est quand même la géomatique, c'est quand même un terme canadien au départ. Et alors Thierry me contredit, mais bon, quand même popularisé au Canada, on va dire.
Oui,
voilà. Popularisé au Canada, il me semble quand même. Et en tous les cas, qui est l'union de la géographie et de l'informatique. Et souvent, quand on donne une définition rapide, il y a plein de définitions de la géomatique, mais quand on donne une définition rapide, on dit que c'est l'acquisition, le traitement et la visualisation de données. Donc, il y a bien acquisition. Et vous êtes très fortement dans l'acquisition de données. Hein.